Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصل وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 9 Esfand 1399 du calendrier iranien, 27 février 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran réaffirme son soutien à la Syrie pour vaincre le terrorisme et rétablir la sécurité. L'Iran condamne fermement les frappes illégales des États-Unis dans l'est de la Syrie. Bagdad nie toute coopération avec Washington pour les raids américains contre la Syrie. Et pour l'affaire Khashoggi, les appels sont multipliés pour imposer des sanctions à Mohammed bin Salman. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné les attaques illégales et agressives des forces américaines contre des zones de l'est de la Syrie et a considéré cet acte de Washington comme une violation flagrante des droits humanitaires et du droit international. Saïd Khatibzadeh a ajouté « Ces attaques qui sont la continuation de l'agression continue du régime sioniste sur le territoire syrien ont eu lieu dans une situation où les forces américaines interviennent illégalement en Syrie depuis ces dernières années, en occupant certaines zones de ce pays et en volant des ressources naturelles syriennes, notamment du pétrole, qui appartient au peuple syrien. » Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a décrit la décision de la nouvelle administration américaine comme une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et une violation du droit international, ce qui aggravera le conflit militaire en Syrie et déstabilisera davantage la région. Bagdad a nié toute coopération avec Washington au sujet des frappes aériennes meurtrières des États-Unis jeudi sur l'est de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak. Dans un communiqué, le ministère irakien de l'Intérieur a déclaré qu'aucun renseignement n'avait été partagé avec les forces de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak pour les raids contre le territoire syrien. Le ministère a noté que sa coopération avec la coalition se limitait à renforcer la sécurité intérieure de l'Irak. Le ministère irakien de la Défense a également exprimé sa surprise face aux allégations du Pentagone concernant le partage de renseignements avant les attaques contre la Syrie. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a condamné les attaques des États-Unis contre les forces de la résistance combattant le groupe terroriste de Daesh dans la région. Ali Shamkhani a déclaré que les États-Unis avaient lancé ce qu'il a appelé une nouvelle vague de terrorisme organisée en renforçant les activités de Daesh et en ciblant les combattants antiterroristes. Il a souligné que l'Iran et d'autres pays ne permettront pas la résurgence du terrorisme soutenu par les puissances étrangères dans la région. Ali Shamkhani a fait ce commentaire lors d'une rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hossein, à Téhéran. Le responsable iranien a averti que la présence continue des forces étrangères en Irak avait intensifié les tensions. M. Shamkhani a exhorté Bagdad à appliquer une loi adoptée par le Parlement irakien qui exige le retrait de toutes les troupes étrangères. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, n'avait pas le droit d'accéder au système d'enregistrement et aux caméras pendant 3 mois, et si les sanctions n'étaient pas levées, dans les 3 prochains mois, ces informations seraient supprimées et les caméras de l'agence seraient fermées. Ali Akbar Salehi a évoqué la loi d'action stratégique pour la levée des sanctions et protéger les intérêts de la nation iranienne et la cessation de la mise en œuvre volontaire du protocole additionnel par l'Iran. La loi stipulait que 2 mois après l'adoption de la loi, Téhéran suspendrait la mise en œuvre du protocole additionnel si les signataires du plan d'action global conjoint ne tenaient pas leurs promesses, ce qu'il a fait. M. Salehi a évoqué la visite de M. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, ajoutant qu'au cours de ses entretiens, il a été annoncé que l'Iran suspendrait l'application du protocole additionnel. Sur la base des articles 26 et 36 de l'accord nucléaire, l'Iran a le droit de suspendre ses obligations en tout ou en partie si l'autre partie ne respecte pas ses obligations. Les appels se multiplient pour que Washington impose des sanctions au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la suite d'un rapport des services de renseignement américains l'accusant d'implication dans le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi. La rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a exhorté Washington à cibler les biens personnels et les engagements internationaux de Ben Salman. Agnès Callamard a déclaré que les États-Unis ne devraient pas accorder au prince saoudien l'immunité contre les poursuites civiles. Des groupes de défense de la liberté et de la liberté de la presse ont fait des demandes similaires au gouvernement américain. Entre mars et décembre 2020, le montant des exportations de marchandises iraniennes non pétrolières vers 15 pays voisins est d'environ 55 millions de tonnes d'une valeur de 16,6 milliards de dollars. L'Iran partage des frontières terrestres avec 7 pays, à savoir le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. L'Iran partage aussi des frontières maritimes avec 8 pays, à savoir la Russie, le Kazakhstan, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et Oman. L'ensemble des échanges commerciaux entre la République islamique d'Iran et ses 15 pays voisins s'est élevé à plus de 30 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de l'année iranienne, entre mars et décembre 2020. L'Irak, 38%, les Émirats Arabes Unis, 22%, la Turquie, 12%, et l'Afghanistan, 11%, sont les 4 premières destinations des exportations iraniennes parmi les pays voisins. les importations de l'Iran depuis ses voisins est d'environ 14,4 millions de tonnes, d'une valeur de 14 milliards de dollars. Et enfin, sachez que le président américain Joe Biden a déclaré que les récentes frappes aériennes des États-Unis sur la Syrie portaient un avertissement à l'Iran comme quoi il ne pouvait pas agir en toute impunité. Biden a déclaré aux journalistes lors d'une visite dans l'État américain du Texas, touché par la tempête, que Téhéran devait faire attention. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a fait une remarque similaire. Jeudi, les États-Unis ont mené des frappes aériennes barbares sur la province syrienne de Deir ez-Zour, près de la frontière irakienne. L'attaque était la première du genre sous l'administration Biden et visait des installations appartenant à des groupes de résistance antiterroriste. L'Iran réaffirme son soutien à la Syrie pour vaincre le terrorisme et rétablir la sécurité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Téhéran continuerait à soutenir la Syrie dans divers domaines, en particulier dans la guerre contre le terrorisme et dans les efforts visant à assurer la sécurité et la stabilité dans tout le pays. Lors d'un appel téléphonique avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Maqtad, le haut diplomate iranien a souligné l'importance de faire des efforts pour parvenir à une solution qui préserve les intérêts de la nation syrienne, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. Faisal Maqtad a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de la République islamique d'Iran, en particulier dans le domaine économique, pour atténuer les effets des sanctions économiques coercitives unilatérales des États-Unis et de leurs alliés. Les ministres iraniens et syriens des Affaires étrangères ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Zarif et Mehtad ont également échangé des vues sur les résultats des récentes réunions tenues dans le cadre du format de la paix d'Astana dans la ville balnéaire russe de Sotchi et également des consultations entre diverses parties pour surmonter les obstacles mis par certains pays sur la voie du rétablissement de la stabilité en Syrie. Depuis janvier 2017, l'Iran, la Turquie et la Russie, les États qui se sont portés garants d'un cessez-le-feu pour toute la Syrie, mènent des négociations de paix entre les représentants du gouvernement syrien et des groupes d'opposition dans le cadre d'une série de pourparlers dans la capitale kazakh. Astana, aujourd'hui appelée Nur-Sultan, et d'autres endroits, y compris Sotchi. Les pourparlers sont collectivement appelés le processus de paix d'Astana. Dans une déclaration publiée le 17 février, à l'issue de pourparlers de deux jours à Sotchi, la République islamique d'Iran, la Russie et la Turquie ont déclaré l'importance du respect de la souveraineté nationale de la Syrie et ont mis l'accent sur la nécessité de lutter contre le terrorisme en Syrie jusqu'à son éradication complète. Mohammad Javad Zarif et Faisal Maqtad ont également discuté des activités du Comité constitutionnel syrien et des résultats de sa dernière réunion dans la ville suisse de Genève en janvier. En marge de la réunion ordinaire du Comité constitutionnel à Genève au mois de janvier, la République islamique d'Iran, la Russie et la Turquie ont tenu une réunion trilatérale à l'issue de laquelle ils ont publié une déclaration commune réaffirmant leur volonté de soutenir les travaux du comité pour une interaction continue avec les délégués syriens et envoyés spéciaux des Nations Unies pour la Syrie en tant que facilitateur pour assurer le fonctionnement durable du comité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait se pencher sur ces récents développements relatifs à l'Iran et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que l'Iran, dans le cadre d'une loi adoptée par le Parlement, a décidé de mettre un terme à l'application du protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire, au TNP. C'était une réaction de Téhéran au non-respect par des parties signataires de l'accord nucléaire de 2015 et de leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Vous le savez très bien que les États-Unis se sont retirés unilatéralement, c'était en 2018 de cet accord, mais s'agissant de la partie européenne également, des trois pays européens qui font partie de ces accords, ces trois pays aussi n'avaient pas honoré leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Cela a conduit l'Iran, en fait, à prendre cette décision dans le cadre, comme je viens de vous le dire, d'une loi adoptée par le Parlement iranien. Finalement, l'Iran a en fait annoncé sa décision de suspendre, si vous voulez, sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne l'application, j'insiste sur ce point, l'application du protocole additionnel au TNP. Sinon, l'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre de l'accord de garantie, c'est-à-dire la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique poursuivra. Mais il y a désormais la suspension, si vous voulez, du protocole additionnel, la suspension, l'arrêt de tout accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, si vous voulez, aux installations nucléaires iraniennes, en ce qui concerne, si vous voulez, l'application du protocole additionnel. Sinon, en fait, l'accord de garantie sera à appliquer, bien sûr, par l'Iran et également l'Iran reste toujours membre du TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste. Je ne sais pas si notre contact avec Moscou n'a pas été encore établi, mais en attendant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation, bonjour aux téléspectateurs et on espère que M. Bohr nous rejoindra bientôt.
Espérons-le. En fait, nos amis au Régide sont en train, en fait, d'établir ce contact avec Moscou et Maître Develay. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui comme l'invité de notre émission parce que vous êtes des juristes spécialistes des questions juridiques internationales également. Maître Develay, juridiquement parlant, comment évaluez-vous cette décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, pas sa coopération, disons-le, de suspendre l'application du protocole additionnel au TMP dans le cadre de cette coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il vous plaît?
Alors, tout d'abord, il est important de souligner pour nos téléspectateurs quelle est la nature de ce protocole additionnel. Le protocole additionnel, comme vous l'avez très bien souligné, encadre les visites des inspecteurs de l'Agence internationale atomique sur les sites où l'enrichissement a lieu en Iran, à la différence près que le protocole additionnel met l'accent sur ce qu'on appelle, de manière un peu cavalière, les snap inspections, ce qui veut dire qu'en fait, les inspecteurs, selon ce protocole, avaient la possibilité de faire éruption, si je puis dire, avec les délais les plus brefs, afin de prospecter, procéder à des visites surprises et inspecter donc les sites qui sont listés sur leur plan de travail. Vous l'avez très bien souligné, entre-temps et suite dans le prolongement du retrait unilatéral US de l'accord sur le nucléaire de 2015, donc le 8 mai 2018, après que les Européens aient tergiversé, négocié, plaidé, procrastiné, si je puis dire, dans leur promesse, de eux-mêmes continuer à respecter leurs obligations, et deux, à l'aune du retrait bilatéral des États-Unis, d'essayer de contourner l'obstacle des transactions en dollars US en instaurant un système dit INSTEX, qui serait en fait quelque part une forme de troc. Il s'est avéré que les Européens n'ont pas été en mesure de mettre en pratique leur représentation, leur proposition, voire leur promesse. Certaines n'ont pas leur obligation que leur société ont des branches de la vie et donc devenaient en espèce d'imbroglio juridique, alors même de respecter leurs obligations, enfin qu'ils souhaitaient en tout cas qu'ils avaient l'intention déclarer, d'honorer leurs obligations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Ils n'avaient pas les ambitions, ils n'avaient pas les moyens pratiques de pouvoir le faire, dans le sens où, dans la mesure où leur société serait amenée à collaborer, à investir en Iran, les États-Unis appliqueraient ce qu'on appelle les sanctions secondaires, verraient ces sociétés européennes donc être l'objet de sanctions et d'amendes très importantes. C'est d'ailleurs dans ce contexte que, pour les téléspectateurs, l'usine Peugeot, donc, qui avait pourtant projeté un taux de production de 450 000 véhicules par an dans le cadre de son retour sur le marché iranien, s'est vu obligé d'annuler, de retirer ce que les Chinois se sont empressés de remplir, de combler ce vide. Donc l'Iran n'a rien perdu par rapport à ça. La Chine a parfaitement, elle, honoré ses obligations.
Maître Develay, là vous soulevez en fait un point très très intéressant, me semble-t-il. Vous l'avez dit que voilà, la France était présente, si vous voulez, sur le marché iranien. Vous venez de mentionner, si vous voulez, l'exemple de Peugeot, mais la France, comme vous l'avez dit, a dû dû en fait se retirer du marché iranien sous la coupe des sanctions américaines. Autrement dit, en fait, la France, malheureusement, en quelque sorte, par crainte de ces sanctions américaines, a quitté le marché iranien. Et maître de volée, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a en fait critiqué cette récente prise de position du côté de l'Union européenne, de la partie européenne également, et a qualifié, si vous voulez, de trop exigeante, d'injuste et erronée, si vous voulez, de cette position adoptée par la partie européenne, alors que la partie européenne, si vous voulez, comme vous l'avez dit, comme je viens de le dire également tout à l'heure, n'a pas respecté malheureusement ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, maître de volée.
Oui, tout à fait. En fait, cela soulève la question de savoir si les Européens avaient les moyens de leurs ambitions politiques d'être des parties co-contractantes avec la souveraineté nécessaire pour pouvoir, en ce qui les concernait, en tout cas, honorer leurs obligations. Or, c'est ce qu'on a entendu depuis le début. Les Européens valorisaient l'accord, y trouvaient leur compte. Et dès que les Américains se sont retirés, les Européens se sont retrouvés dans une situation où, de facto, dans le cadre de leur mise en œuvre de leurs obligations, ils ont été amenés, en fait, à eux-mêmes, si je puis dire, violer l'esprit du traité. Puisque comment voulez-vous prétendre, d'un côté, rester dans l'accord et faire le nécessaire pour que l'esprit et les intentions initiales des parties soient honorées, quand vous-même, vous n'avez pas les moyens d'honorer vos propres obligations à cause de sanctions qui seraient éventuellement brandies contre vos sociétés. Donc ça prouve bien que l'Europe est un nain politique, que si les États-Unis décident de se retirer, les Européens, quelque part, j'allais presque dire par défaut, même si nominalement ils déclarent rester dans l'accord, en n'honorant pas leurs obligations, en n'exécutant pas ce qu'on attend d'eux, il est de toute évidence, les Européens ne sont pas en mesure d'être des parties sur lesquelles on peut compter. Je voulais juste rajouter pour l'ouverture, donc cet état de fait, si vous voulez, a amené la République islamique d'Iran étant un état souverain, à prendre acte de cet état de fait, donc suite au retrait unilatéral américain, et le Parlement iranien, dans son pouvoir souverain, a décidé donc de passer cette loi permettant à l'Iran de réagir et donc de prendre des mesures, certes possiblement intermédiaires, puisque le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, a bien souligné que pour peu que les États-Unis reviennent dans l'accord en suspendant les sanctions et en mettant en œuvre ce qu'ils devaient faire dès 2015, cette loi serait bien sûr revisitée et conditionnée à l'exécution des obligations américaines.
Merci beaucoup, et maître de volet, fort heureusement, Fabrice Beurch, analyste politique et spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission depuis Moscou. On va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre M. Beurch. M. Beurch, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, notre contact n'a pas été encore établi avec Moscou, et en fait M. Beurch aujourd'hui reste toujours et encore injoignable. On va poursuivre notre débat avec vous, maître Develé. Maître Develé, vous l'avez en fait dit, cette prise de position du côté des États-Unis également est fort bien en fait intéressante. Les États-Unis se sont retirés, si vous voulez, de l'accord nucléaire. Et dans l'état actuel des choses, au lieu, par exemple, de compenser leur erreur, leur politique injuste qui était celle de pression maximale adoptée contre l'Iran, reste toujours en fait exigeant à l'égard de l'Iran, mais il n'est pas question pour l'Iran de se laisser intimider, si vous voulez, par ce langage menaçant de Washington. On vient en fait de souligner l'exemple, si vous voulez, de la position adoptée par le leader de la République islamique d'Iran, qui dit que voilà, l'enrichissement de l'uranium qui se situe actuellement au niveau de 20% peut atteindre les 60% si le besoin du pays l'exige, c'est-à-dire suivant les besoins du pays. Comment expliquez-vous cette prise de position ferme du côté de Téhéran, qui avait appliqué, si vous voulez, jusqu'à présent le protocole additionnel, disons-le volontairement, pour, si vous voulez, montrer sa bonne foi, mais Téhéran suspend désormais l'application de ce protocole pour protester contre le non-respect, si vous voulez, des engagements pris par d'autres parties signataires de l'accord. Mais comment expliquez-vous cette fermeté de Téhéran de vouloir faire, si vous voulez, valoir ses droits légitimes dans le cadre de l'accord nucléaire?
Alors, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est que l'accord de 2015 n'est qu'un élément d'un régime dit de non-prolifération, dans lequel, par défaut, l'Iran fonctionne, à défaut de l'exécution par toutes les parties de l'accord de 2015. Il y a un régime de non-prolifération nucléaire qui est cristallisé par un traité, le NPT, hein, comme son nom l'indique, le traité de non-prolifération nucléaire, qui, pour peu que les parties signataires révèlent qu'ils cultivent l'énergie nucléaire, ont le droit de développer l'énergie nucléaire dans un contexte civil. Et là, l'Iran est parfaitement dans son droit de revenir au statu quo ante par défaut et de développer, ainsi que son statut de signataire du NPT depuis après, l'énergie nucléaire nécessaire pour compenser l'énergie fossile. Donc ça ne pose absolument aucun problème en droit. Je dirais même que, quelque part, le ton de la déclaration du leader de la République islamique d'Iran laisse entendre en filigrane qu'il ne va pas se laisser ligoter par ce qui est devenu une situation de fait, à savoir que si une des parties à l'accord sur le nucléaire de 2015 ne remplit ses obligations, la perception qui ne peut découler de cet état de fait, eu égard à cet accord, c'est qu'en fait l'accord a été mis en œuvre pour donner une espèce de frein à ce qui existait déjà comme droit légitime de l'Iran sous le régime général de l'accord du traité de non-prolifération nucléaire. Donc quelque part, c'est une manière de réaffirmer non seulement le droit souverain à l'Iran en conformité avec le droit international et avec ses obligations selon la signature du traité de non-prolifération nucléaire de poursuivre le développement nucléaire à des fins civiles, mais aussi de bien laisser, de bien envoyer le message aux parties co-contractantes de l'accord pour le nucléaire que ce traité ne saurait, en l'état des choses, être utilisé pour essayer d'influencer l'opinion publique quant au fait que l'Iran excéderait le pourcentage d'enrichissement que le traité était supposé mettre en œuvre, pour peu que ces dernières et les Occidentaux aient rempli leurs obligations. Les Occidentaux n'ayant pas rempli leurs obligations, de facto, et par le biais de la déclaration du leader, et par le biais du projet de loi, enfin de la loi et du décret adopté par le Parlement iranien exerçant sa souveraineté, l'objectif de développement d'enrichissement jusqu'à 60% est parfaitement légitime et parfaitement légale.
Maître de Develet, nous venons en fait de parler de cette position adoptée par, si vous voulez, ces trois pays européens qui a été en fait vivement critiqué par Téhéran. Nous venons également de parler un peu de cette position adoptée par la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, qui est quand même une position ambigu et de contradictoire, parce que d'un côté, si vous voulez, les autorités américaines de Washington disent vouloir revenir, si vous voulez, à l'accord nucléaire pour en fait appliquer en bonne et due forme cet accord nucléaire, et de l'autre côté, ils disent que voilà, toutes les sanctions contre l'Iran sont maintenues, c'est-à-dire que voilà, nous sommes déterminés à maintenir cette politique de sanctions contre l'Iran. Mais Maître Develet, la prise de position adoptée par Moscou et Pékin était fort bien intéressante. Les autorités russes disent que voilà, si l'Iran a décidé, si vous voulez, de suspendre le protocole additionnel, de réduire ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire, la faute revient pas à Téhéran, mais si vous voulez, à Washington, aux États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire, et également de la faute revient à la partie européenne qui n'a pas honoré ses engagements. La position adoptée par Pékin également, Maître Develet, était fort bien intéressante. Aujourd'hui même, un responsable chinois avait en fait appelé les États-Unis à agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Il a dit que voilà, nous sommes dans une situation sensible, névralgique, les États-Unis devront agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Les Chinois et les Russes aussi se sont rendus compte qu'il n'est pas question pour l'Iran en fait de revenir ou bien de renoncer à ses droits sans la levée complète des sanctions, Maître Develet.
Écoutez, oui, en fait, on assiste à une espèce de dissonance cognitive en termes de presque l'appréhension de la réalité juridique des choses. Les responsables russes et les responsables chinois partagent l'analyse de la République islamique d'Iran sur la réalité juridique telle qu'elle est perceptible. Et pour eux, leur positionnement est un miroir du positionnement iranien, à savoir que pour débloquer la situation, la seule option possible et concevable serait pour les États-Unis de suspendre les sanctions et de mettre en œuvre leurs obligations, ce qui de facto les ramènerait dans l'accord. Or, ce qu'on entend de Washington est complètement cacophonique. On a un discours de campagne qui porte sur l'intention de l'administration Biden de revenir, de ramener les États-Unis dans l'accord et donc de remplir leurs obligations. On a les déclarations du secrétaire d'État qui dit que la stratégie de doctrine de pression maximale n'a octroyé aucun résultat et que, en fait, était anticipé, à savoir s'il n'avait pas eu l'accord, en fait, était en fait en train de penser, à savoir que l'Iran reprend ses droits souverains et ne compte pas se laisser influencer par quelques discours d'intimidation, quel qu'il soit. Mais en même temps, on a cette même administration qui revient sur les déclarations au Conseil de sécurité au mois de septembre dernier de Mike Pompeo, qui s'était ridiculisé en laissant entendre que les États-Unis pouvaient appliquer la partie remédiale les concernant découlant de l'accord sans être dans l'accord, ce qui n'a aucun sens. Et après, on apprend quelque part aussi que Il semblerait que les États-Unis ne se soient pas opposés à ce que la République islamique d'Iran récupère pas moins de 8 milliards de dollars dans un contentieux qui découle plus ou moins de cette situation de pression maximale auprès de la Corée du Sud. Donc les signaux sont très contradictoires, mais en même temps cela révèle, j'allais presque dire, un certain vide, en tout cas une absence d'unicité et de cohésion dans la communication au niveau exécutif américain.
C'est-à-dire que, merci beaucoup. Merci infiniment, maître Arnaud Develé, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran développe un nouveau drone de combat à long rayon d'action. L'Iran se trouve actuellement dans la phase finale de conception de son premier drone de combat de grande dimension qui sera capable de parcourir jusqu'à 3000 km, a annoncé mercredi le commandant des forces aériennes iraniennes Aziz Nasirzadeh. L'appareil baptisé Kaman 22 a été conçu et développé conformément aux exigences de l'armée de l'air, a déclaré Nasirzadeh. Le Kaman 2 sera équipé de différents types de munitions intelligentes ainsi que de divers dispositifs optiques et d'équipements de guerre électronique, a-t-il indiqué, ajoutant que le drone pourrait effectuer des missions aériennes durant jusqu'à 24 heures. Il sera doté de toutes sortes de capacités de reconnaissance, de surveillance et de collecte de renseignements et aura la capacité de prendre des photos de cibles éloignées. En janvier, de l'armée des iraniennes a mis en scène un jeu de guerre et a fait voler de nouveaux drones et suscite des militaires qui peuvent effectuer des sorties sans arrêt pour atteindre des cibles à une distance de 4000 km. L'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné que l'Iran continue de respecter ses engagements au titre des accords de garantie du TNP et de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. S'adressant aux journalistes, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a confirmé que la mise en œuvre du protocole additionnel avait été interrompue. Zarif a souligné que l'Iran continuerait de respecter ses engagements au titre des accords des garanties. Il a expliqué que les images enregistrées par des caméras sur les sites nucléaires iraniens ne seront désormais plus diffusées et ne seront plus partagées avec l'AIEA sur une base quotidienne et hebdomadaire comme cela se faisait par le passé. Le chef de la diplomatie iranienne a noté que l'Iran n'aura pas de réunion officielle avec les États-Unis puisque Washington n'est plus partie à l'accord nucléaire. L'arrêt s'inscrit dans le cadre du plan global d'action stratégique pour contrer les sanctions, une loi adoptée en décembre dernier par le Parlement iranien. Réagissant aux allégations iraniennes avancées par le Premier ministre israélien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Benjamin Netanyahou a recouru à des mensonges détestables, manière d'inciter à une iranophobie raciste ». Saïd Khatibzadeh a écrit sur son compte Twitter « Netanyahou en colère d'avoir perdu son ami con à la Maison Blanche a fait recours à des mensonges détestables pour inciter à une iranophobie raciste. Khatibzadeh a poursuivi « Cela doit être douloureux pour lui que cette conspiration iranienne et voler de nouveau en éclat » a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministère iranien des renseignements a annoncé la neutralisation d'une opération terroriste et la mort de deux terroristes qui envisageaient de mener une opération à Piranshahr dans la province de l'Azerbaïdjan occidental. Le département des relations publiques du ministère iranien des renseignements a annoncé qu'en coopération avec le bureau des renseignements de la province d'Azerbaïdjan occidental et le siège de Hamza Seyyed Shohada, l'acte terroriste d'un groupe terroriste a été déjoué. Des membres de cette équipe terroriste composée de deux membres affiliés à un groupe terroriste basé dans la région du Kurdistan ont été tués dans un affrontement, a ajouté dans son communiqué le ministère iranien des renseignements. Ces terroristes qui prévoyaient de mener une opération terroriste à Piranshahr ont été tués au cours de fusils Kalachnikov, des grenades et des munitions ont été détectés sur des éléments terroristes. Le développement entourant le programme nucléaire iranien sont un point critique et la levée des sanctions contre l'Iran est essentielle, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. La situation actuelle sur la question nucléaire iranienne est un point critique avec à la fois des opportunités et des défis, a déclaré M. Wang aux journalistes lors de son point de presse hebdomadaire. Nous avons toujours cru que le retour des États-Unis à l'accord global et la levée des sanctions contre l'Iran sont les clés pour sortir de l'impasse dans le dossier nucléaire iranien, a-t-il précisé. Un avion de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été abattu dans le ciel de la province de Ma'arib, au nord du Yémen, où la guerre de libération de cette région vient d'entrer dans sa phase finale. Le site Al-Khabar al-Yémeni affirme que l'avion de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été intercepté et abattu alors qu'il se trouvait en mission de collecte d'informations visant les positions d'Ansarallah sur le front de Sana'a. Entre-temps, d'intenses combats se poursuivent sur le front est à la ville de Sirva, où l'armée yéménite d'Ansarallah continue à avancer pour venir à bout de la coalition d'agression saoudienne et de ses conseillers occidentaux et de ses mercenaires à Astas, ville stratégique située à l'est de Ma'arib. La chute imminente de la province pétrolifère revient de facto à couper de la voie terrestre entre de l'Arabie d'une part et les régions occupées du sud yéménite, y compris Aden de
l'autre. La coalition d'agression saoudienne n'aura alors qu'une seule et unique voie d'accès au port stratégique du sud du Yémen via la province de Mahra. Le président russe Vladimir Poutine a appelé ses services de sécurité à faire face à la politique occidentale d'endiguement qui cherche à enchaîner la Russie avec ses multiples sanctions. Nous sommes confrontés à une politique dite d'endiguement de la Russie, a souligné le président russe Vladimir Poutine, reprenant le terme associé à la politique étrangère américaine ayant visé à lutter contre l'influence soviétique. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne dans le pays de persona non grata. Aujourd'hui, sur décision du président Nicolas Maduro, nous avons remis à Madame Isabelle Briand en main propre une déclaration de persona non grata, a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères à Riazah lors d'un point de presse suite à son entrevue avec l'ambassadrice. Cette décision a été prise en riposte aux récentes sanctions imposées par les 27 contre 19 fonctionnaires de la République bolivarienne qui prévoient l'interdiction pour eux de voyager dans l'Union européenne et le gel de leurs avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.